le magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies dont voici les principales articulations. 14e visite de travail de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC, commencée vendredi 5 octobre. Cette visite devrait se clôturer ce dimanche. La délégation du Conseil de sécurité a eu des rencontres avec les autorités congolaises, les acteurs politiques, la société civile et le leadership de la MONUSCO dans cette édition incondensée de ce séjour. Et puis accompagner les femmes candidates aux prochaines élections en RDC, c'est le plaidoyer que fait auprès du système onusien en RDC, de la MONUSCO en particulier, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, pour permettre à ces candidates de bien battre campagne. Dans ce magazine, la secrétaire générale de CAFCO, Madame Adine Omokoko, motive ce plaidoyer dans la rubrique décryptage. La MONUSCO lance un projet de réinsertion socio-économique de 600 démobilisés et de cohabitation pacifique entre Emma et Bindi dans le territoire d'Irumu. Nous sommes là en Ituri. Et pour cela, la mission onusienne a déboursé 200 000 dollars américains. Et les détails, c'est toujours dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La délégation du Conseil de sécurité a séjourné à Kinshasa depuis vendredi et arrive à terme de sa mission ce dimanche. Objectif de cette visite de travail, faire l'évaluation de la situation sur le terrain en rapport avec le mandat de la MONUSCO. La délégation, composée de 15 membres permanents du Conseil de sécurité, a rencontré les officiels congolais, l'opposition et les organisations de la société civile. Le point de cette visite avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Au cours de leur visite, les 15 membres du Conseil de sécurité ont rencontré le vendredi 5 octobre le bureau de la Commission nationale électorale indépendante. Au menu, l'évaluation du processus électoral et bien entendu l'appui des Nations Unies. Le président de la CENI a remercié ses hôtes pour le soutien à ce processus à travers la MONUSCO en dépit de la décision de Kinshasa de se passer de l'assistance des partenaires extérieurs. Les deux parties ont toutefois noté des progrès réalisés par rapport au calendrier électoral et convenu de se pencher sur les questions à controverse, de concilier l'impératif de la transparence, de la confiance et la nécessité de ne pas rater les coches du 23 décembre. Samedi, la délégation a reçu tour à tour les représentants tant de l'opposition politique que du Front commun pour le Congo, donc de la majorité au pouvoir, ainsi que des acteurs de la société civile de Goma, Beni et Kinshasa. Pour le Front commun pour le Congo, la position des opposants montre clairement qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. La position de l'opposition politique est qu'il y a des préalables pour sa participation aux prochaines élections, notamment le rejet de la machine à voter et surtout ce qu'elle qualifie de prise d'otage du processus électoral par le pouvoir en place. La société civile de Beni a mis l'accent sur l'insécurité dans l'Est qui risque, selon elle, d'entraver la tenue des élections. Le dimanche, la délégation de l'ONU a pris langue avec les associations féminines, les ONG humanitaires. Elle devrait enfin rencontrer le président Joseph Kabila.
Prévenir et réduire la violence en période électorale et sécuriser leurs communes, ce sont les préoccupations exprimées par la jeunesse de Barumbu au cours d'un forum d'échange et de dialogue ce jeudi avec l'autorité municipale sur l'insécurité grâce à l'appui de la section affaires civiles de la MONUSCO. Les jeunes ont spécialement interpellé les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité sur le danger que présente le désaccord sur la machine à voter. Jean-Pierre Lalicoco a assisté à cette rencontre.
Insécurité au quotidien, phénomène Kuluna, tapage nocturne, insalubrité, chômage et surtout spectre de violence autour des élections, autant de sujets débattus par les jeunes de Barumbu dans un esprit de dialogue et de confiance avec les représentants du bourgmestre et les commandants de la police communale. Le premier volet, c'est la violence redoutée en période électorale. Les dissonances actuelles de la majorité de l'opposition autour de la machine à voter constituent le germe de la violence estimée estime Gilbert Fundi, membre du conseil communal. Il invite les 21 candidats à la présidence à adresser un message de paix et d'apaisement avant les élections à la jeunesse.
Le 21 candidat présidentiel, qu'il puisse se mettre dans une même table et lancer un message de paix. Notre souci, c'est d'aller aux élections avec le membre de la majorité et de l'opposition en souriant. Et à la fin, celui qui va gagner, il gagne. Nous ne voulons plus voir des gens mourir.
Le deuxième volet est sécuritaire. Les jeunes ont convenu de s'impliquer dans la recherche des solutions, comme le soutient ici Gloria Teresia.
Comme nous sommes ici, nous devons d'abord sensibiliser nos amis dans nos quartiers. Comment agir pendant ces moments?
À l'issue des échanges, l'autorité communale s'est engagée à accompagner les initiatives de jeunes pour la paix.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une cinquantaine de journalistes des médias de Kinshasa ont pris part jeudi 4 octobre 2018 à un atelier sur le rôle des médias dans la promotion des femmes, la paix et la sécurité préconisée par la résolution 1325. Un atelier organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, en partenariat avec The Global Network of Women, Peace Builders. En marge donc de ce forum, le magazine des Nations Unies s'est entretenu avec Madame Adine Omokoko et les secrétaires générales de CAFCO. Suivez son entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Madame Adine Omokoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'organiser un atelier sur la résolution 1325 avec les journalistes. En fait, la résolution 1325, c'est quoi, madame?
La résolution 1325/2000 est une des résolutions parmi tant d'autres de Nations Unies qui parle de femmes, paix et sécurité. C'est une résolution qui a vu le jour au regard de tous les sévices qu'ont vécu les femmes dans les zones des conflits armés, notamment la RDC qui a connu plus d'une décennie de guerres. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a estimé qu'il fallait quand même, pour arriver à trouver de voies et moyens pour les résolutions de conflits dans ces zones, prendre une résolution pour permettre à ce que toutes les parties prenantes dans un conflit armé puissent avoir un regard particulier sur la promotion, la protection, la prise en charge et la prise en compte de la participation de la femme dans le seuil de décision pour arriver à trouver la paix dans ces zones de conflit.
On parle beaucoup de cette résolution. Quelle est sa particularité?
Sa particularité, c'est qu'elle met en phase l'aspect genre, où la femme doit être considérée comme partie prenante à tout le processus de paix, où la femme doit prendre une place là où les hommes discutent pour trouver la paix, là où les questions sexo-spécifiques liées au genre, particulièrement à la femme, doivent être prises en compte lorsque l'on négocie pour trouver les résolutions des paix dans une zone de conflit.
Alors, madame, 18 ans après, quel bilan en termes d'application on pouvait faire de cette résolution à travers le monde en général et en particulier en RDC?
Je parlerai plutôt de la RDC parce que nous évoluons ici. Le bilan, il est progressif parce que déjà après que cette résolution a été adoptée aux Nations Unies, les pays membres dont la RDC ont eu l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un plan d'action national qui accompagne la mise en œuvre de cette résolution. Et très progressivement au niveau de la RDC, nous avions eu un plan d'action national et très récemment, le plan d'action national devait être exécuté par un secrétariat qui a été institué au niveau du ministère du genre, famille et enfants, et dans lequel le secrétariat a produit un document, une stratégie pour accompagner la mise en œuvre de cette résolution au niveau des institutions de la République et dans tous les aspects qui touchent la gouvernance du pays.
Quel est exactement le rôle que vous jouez, vous, CAFCO, dans la promotion de la femme, disons dans la promotion de cette résolution, la 1325?
Le CAFCO, comme structure de la société civile, ne peut jouer que le rôle de sensibilisateur. Nous sensibilisons sur la résolution 1325, d'où des assises d'évaluation de cette semaine. Nous vulgarisons la résolution. Voilà pourquoi nous avons associé les femmes qui œuvrent dans les médias pour qu'elles puissent être nos mains de relais pour atteindre un plus grand nombre de femmes au niveau de la population congolaise, afin qu'elles sachent qu'il y a une résolution qui parle pour leur sécurité, il y a une résolution qui intéresse la femme au plus haut point dans la gouvernance de la chose publique. Il y a une résolution qui parle de la femme comme partie prenante dans un processus de maintien de paix. Donc, Le rôle que nous jouons, c'est de vulgariser pour que nous puissions atteindre un grand nombre de femmes, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble dans la communauté.
La résolution 1325, comme bien d'autres résolutions, est une émanation des Nations Unies. Est-ce que CAFCO est en partenariat avec les Nations Unies, avec les agences onusiennes?
Oui, le CAFCO travaille en partenariat avec les agences du système des Nations Unies. Nous sommes appuyés ponctuellement par rapport à chaque agence selon les termes de référence qui sont les siens et selon ses axes d'intervention. Donc CAFCO travaille en partenariat, mais du moins ce n'est pas un partenariat permanent. Il faudrait que nous puissions arriver à consolider cela.
Oui, vous travaillez en partenariat avec des agences des Nations Unies. J'imagine également avec la MONUSCO qui est une mission onusienne en RDC. Alors, dans quel domaine CAFCO aimerait obtenir l'apport de cette institution, par exemple, en cette période préélectorale?
Bon, déjà, je dois dire que la MONUSCO a accompagné les femmes congolaises par CAFCO en 2007 dans l'évaluation du processus électoral de 2006. Et en 2011 aussi. J'ai dit que ce sont des actions ponctuelles que nous arrivons à faire avec nos partenaires du système des Nations Unies. Et donc, toute action dirigée vers les femmes que les Nations Unies ou la MONUSCO pourraient appuyer, CAFCO ne pourrait que recevoir de bon cœur et estimer que cela va aider pour faire la promotion de la femme.
Nous sommes en période préélectorale. Est-ce que CAFCO, par exemple, aimerait dans ce domaine-là avoir un apport de la MONUSCO pour les femmes, bien sûr.
Pour les femmes. Vous savez que la pauvreté se conjugue au féminin partout dans le monde et en RDC particulièrement. Nous avons pour mission d'aider les femmes à se promouvoir dans le seuil de prise de décision et entre autres de participer aussi au processus électoral. Mais il se fait que les femmes n'ont toujours pas assez de moyens pour arriver à briguer les mandats électoraux. C'est pourquoi nous pouvons solliciter à ce que les femmes puissent être accompagnées, celles qui sont déjà enregistrées dans les listes électorales comme candidates, qu'elles puissent être accompagnées pendant cette période de campagne électorale qui est en train d'arriver, qu'elles soient outillées par des formations, qu'elle sache comment se présenter vis-à-vis de son électorat pour arriver à drainer les voix. Et aussi, nous voulons que, si cela rentrait dans l'agenda de la MONUSCO, accompagner les femmes dans les médias, parce que vous savez que les organes de presse coûtent pour les femmes. Nous voulons que les femmes puissent avoir des espaces médiatiques pour qu'elles puissent présenter leurs programmes, faire leurs campagnes et qu'elles puissent être soutenues dans ce sens. Et nous souhaitons que les grilles de programmes puissent être adaptées pour que les femmes puissent aussi s'afficher et faire prévaloir de ce qu'elles ont comme ambition pendant la période électorale.
Madame Adine Omokoko, Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Commençons par l'ouverture, mercredi dernier à Goma, au Nord-Kivu, de la conférence trimestrielle du haut commandement des forces de la MONUSCO. Objectif de cette conférence, évaluer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire congolais et arrêter des mesures pour la sécurité des populations civiles, conformément au mandat confié par le Conseil de sécurité à la mission onusienne dans la résolution 2409. Tous les commandants secteurs de la MONUSCO et ceux de la brigade d'intervention rapide prennent part à ces travaux. D'une évaluation à une autre, en restant toujours dans la même province du Nord Kivu, pour dire qu'une délégation mixte MONUSCO-gouvernement provincial effectue depuis lundi 1er octobre dernier une mission à Nyabiondo dans le secteur de Osso-Banyungu, c'est en territoire de Masisi. Comme la conférence trimestrielle, la délégation mixte devrait évaluer la situation socio-sécuritaire dans cette région en proie à l'insécurité causée par l'activisme des groupes armés. Par la même occasion, cette équipe devrait faciliter la cohésion sociale et sensibiliser la population à collaborer avec l'armée loyaliste déployée dans cette zone. Enfin, volet humanitaire, environ 60% de quelques 53 000 personnes déplacées sur l'axe Lulimba-Salamabila entre les Sud Kivu et le Maniema ont regagné leur village. Information contenue dans une note de OCHA datée du 2 octobre 2018, citant des sources humanitaires et locales. La majorité de ces déplacés avaient fui et trouvé refuge dans la forêt en raison des affrontements entre l'armée congolaise et des groupes armés dans la région de Kilembwe, en territoire de Fizi, du 15 au 23 septembre 2018. D'après la source, les conditions de vie difficiles dans la forêt en ce début de saison des pluies ont poussé ces personnes déplacées à retourner.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche est Alain Huart, coordonnateur forêt agriculture à l'ONG WWF. L'Union européenne et cette ONG ont signé en décembre 2017 un accord de 17,5 millions de dollars américains afin de financer le programme agricole rural et de conservation du complexe de la Salonga. Ce programme vise l'amélioration des activités agricoles durables de ce parc national. Il s'entretient avec Jean-Pierre Lali Coco sur l'impact de ce projet sur les conditions de vie de population autour de ce parc.
Alain Huart, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre organisation est partenaire avec, bien sûr, l'Union européenne, votre femme et CCN, dans le projet sur la conservation des espèces protégées du parc de la Salonga. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce projet?
Eh bien oui, volontiers. L'Union européenne développe un programme dans le cadre du 11e FET, qui est un programme à une série d'aires protégées en RDC, dont le parc des Virunga, la réserve de Yangambi, etc. Et figure dans cette liste le parc de la Salonga. Dans le cadre de ce projet de la parc de la Salonga, il s'agit d'une cogestion entre l'ICCN, l'Institut National de Conservation de la Nature, et WWF, RDC, qui assure la cogestion de cette aire protégée. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne a doté de moyens un programme d'ambition importante avec un financement de l'ordre de 17 millions d'euros pour mettre en œuvre un programme qui se trouve à la fois dans le parc, pour protéger le parc, et autour du parc, dans le paysage, pour travailler avec les populations riveraines dans le cadre d'un développement durable. Donc on peut dire qu'à peu près la moitié des moyens concernent le parc proprement dit, la biodiversité, etc., la gestion managériale du parc, et l'autre moitié concerne des actions en faveur de la population.
Vous avez justement parlé de l'objectif de ces projets, mais quel en est l'intérêt?
Bon, l'intérêt, c'est qu'il s'agit ici, le parc La Salonga est la deuxième plus grande réserve forestière au monde. C'est une réserve forestière qui abrite aussi des espèces emblématiques comme les éléphants.
Ce sont des espèces protégées en quelque sorte.
Absolument.
Pour le commun des mortels.
Des espèces protégées d'une importance capitale, donc les éléphants, les bonobos, d'autres espèces extrêmement importantes, une population significative, près de un cinquième, 20% des éléphants de RDC se trouvent là-bas. Vous savez que dans le contexte climatique de la RDC, cette forêt est un poumon pour la planète. Et donc, Salonga est un petit peu un parc emblématique, puisque c'est la plus grande réserve forestière d'Afrique. Il convient de la protéger, il convient de faire en sorte qu'elle puisse évoluer sans être abîmée.
Quel est son impact vis-à-vis de la population?
Alors effectivement, lorsque l'Union européenne, avec appui ICCN et appui WWF pour protéger le parc, il faudrait bien que la population ait des retombées positives. Et dans ce contexte-là, le 11e FET est d'une conception, même par le partenaire, l'Union européenne, le partenaire financier, qui prévoit que justement on développe des activités en faveur des populations. Et donc dans ces activités développées en faveur des populations, WWF et ICCN ont contracté deux organisations, Oxfam que vous avez cité, et aussi ISCO, qui est une ONG italienne spécialisée en agriculture. Et donc WWF et la cogestion du parc a donc établi un contrat, un programme de travail avec ces ONG pour encadrer la population. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a des contacts avec la population qui sont faits, on inventorie les besoins, les potentialités, on regarde sur le plan de l'agriculture, puisque la population est essentiellement agricole, comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques agricoles, comment est-ce qu'on peut mettre à disposition du matériel végétal de qualité, comment est-ce qu'on peut former des fermiers pilotes à exercer une certaine activité, comment est-ce qu'on peut relancer des filières café, riz, etc. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut aider les populations à transformer leurs produits, à créer de la valeur ajoutée et à avoir des revenus monétaires de ces activités. Et dès lors, les populations qui vivent autour du parc et qui voient leurs revenus stabilisés et améliorés se trouvent plus sensibles au fait que le parc se trouve à proximité et qu'il faut éviter le braconnage et qu'il faut avoir une attitude responsable.
Je me suis rendu compte de ce que la population fait parce qu'elle est venue vendre le fruit de son travail ici à Kinshasa. Je voudrais parler avec vous des inconvénients que présente ce projet dans la mesure où c'est la population qui est concernée, c'est une population qui vit essentiellement de la pêche, de la chasse, j'allais dire.
Effectivement, donc la question est tout à fait pertinente, mais il faut savoir que si les ressources de faune diminuent, c'est pas forcément le fait qu'il y a un gardiennage poussé, c'est déjà le fait que la population ayant chassé pendant de nombreuses années, avec les braconniers et les trafics qui se sont installés, ont fait diminuer la présence de la faune. Donc déjà, la diminution des produits de chasse ou de la faune est déjà liée quelque part à un comportement de ces populations-là. Donc ce qu'il faut que cette population comprenne, c'est qu'il faut pouvoir garder cette faune à un niveau acceptable, de manière à ce que la réserve vive, à ce que la réserve rende ses services écosystémiques, et pour finir, c'est toute la communauté qui en reçoit des bénéfices à moyen long terme. Bien sûr que certaines communautés peuvent être touchées par le fait qu'il y a une diminution d'accès au gibier, mais c'est question de remplacer ça par un encadrement de qualité. Vous avez également parlé de la pêche. Il est évident que des mesures de pêche durable, des mesures de cogestion, des mesures de respect des frayères, là où les poissons se reproduisent, le respect de périodes de pêche, également calendrier de pêche, également pourquoi pas transformer le poisson pour pouvoir le conserver, sont des facteurs. Donc il est normal que la population pêche, on ne va pas l'en empêcher, mais il faut le faire de manière durable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire du renforcement de capacité, de faire des études sur la population halieutique, donc les poissons, et voir de quelle manière est-ce qu'un équilibre se fait entre les populations qui pêchent, qui ont besoin de ce poisson pour se nourrir, et la ressource halieutique en général, comment est-ce que ces espèces se maintiennent dans leur biodiversité dans cet espace.
Dans le cas de ces projets, travaille en aval, il s'occupe de l'encadrement de la population, on est sur le plan agricole. Alors, quelles sont vos relations justement avec Oxfam dans ces projets?
Eh bien, on tient compte évidemment des qualités intrinsèques, des spécialités d'Oxfam, et donc Oxfam encadre ces populations, Oxfam organise la commercialisation, Oxfam est situé sur le corridor sud, on pourrait dire la rivière Lukeni, qui va jusque Kinshasa et qui va jusque Oshwe Dekesse. Et donc cette zone d'intervention-là, si vous voulez, quelque part, Oxfam crée une dynamique de commercialisation sur ce couloir-là, de manière à ce que les populations qui produisent des produits agricoles aient des revenus assurés au travers de cette commercialisation.
Alain Huart, je vous remercie.
Ok, merci beaucoup, bonne journée.
Cohabitation pacifique entre Emma et Bindi, réinsertion de 600 démobilisés au sud du territoire d'Irumu en Ituri. C'est en tout cas le double objectif d'un projet de la MONUSCO lancé le mardi 2 octobre dernier. Un projet qui consiste en la réhabilitation de la route Rwampara-Bouguma, longue de 38 km, et la construction de deux marchés publics à Nyamavi et Kinyanjojo, pour un coût global évalué à 200 000 dollars américains. C'est un reportage signé Isaac Rimoyope.
Environ 600 ex-combattants, des jeunes à risque et des femmes vulnérables issues des deux communautés seront utilisés comme main-d'œuvre dans ces projets. La réhabilitation de cette route va permettre de faciliter les trafics sur ces tronçons qui relient la RDC à l'Ouganda passant par la rivière Semiliki. Ces projets prévoient également la construction de deux marchés avec chacun quatre hangars d'une capacité d'environ 100 marchands et des toilettes. Les chefs des collectivités de Bahama Sud saluent cette action de la MONUSCO qui repose en tente de la population pour le développement de cette région et la cohésion sociale entre les deux communautés.
Ça va nous permettre d'abord entre communautés de nous fréquenter au marché. Jusqu'ici nous avons encore des réserves. Nous n'allons plus chez l'Ingiti. Ça nous interpelle à mettre fin aux hostilités.
Les chefs du groupe Mazadou, en chiffrerie de Walindu Bindi, indiquent que ces deux projets vont permettre de briser la distance entre les deux peuples.
Les jeunes de Walindu Bindi et de Bahama Sud vont travailler ensemble. Ça c'est d'abord signe positif pour la pacification. Ça va améliorer la cohabitation pacifique. Comme beaucoup de mamans de Geti fréquentent les marchés de Nyamavi. Maintenant, ils n'auront pas la difficulté au cours de la... Ça va faciliter aussi même des jeunes de Kassigne, de Nyamavi d'aller au marché de Kagoro.
Le chef de la section des affaires civiles de la MONUSCO a déclaré que ces projets visent essentiellement la réduction des violences communautaires dans la zone et contribuer à la relance des activités économiques. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Que pense la MONUSCO des 15 recommandations de l'ONG britannique Westminster au sujet de la machine à voter? Suivez plutôt la question ainsi que la réponse du directeur de la division de l'information publique, Charles-Antoine Bambara.
Neftali Bouamoutala pour la RTGA. Moi j'aborde la question des élections. Que pense la MONUSCO par rapport aux recommandations formulées par les experts britanniques concernant la machine à voter?
Merci pour cette question. Nous avons effectivement été invités, tout comme beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres institutions d'ailleurs, à la présentation de ce rapport de cette ONG privée britannique et il s'appelle la Fondation Westminster for Democracy. Nous avons constaté, comme beaucoup de gens, qu'ils ont énuméré 15 recommandations. Bien entendu, nous, au niveau de la MONUSCO, nous allons essayer de suivre un peu pour voir ce que fera donc la CENI de ces 15 recommandations qui ont été énumérées par la Fondation. Et ensuite, nous verrons, nous pourrons faire une analyse de tout ça et revenir à vous pour vous dire est-ce que oui, ces recommandations ont été appliquées, oui ou non. Merci.
La minute humanitaire.
Et c'est l'heure de la minute humanitaire avec Honoré Missinga. Alors dites-nous, nous avons remarqué que les organisations humanitaires ne recrutent pas localement les jeunes qui ont besoin de travailler.
Les organisations humanitaires travaillent avec des ONG locales qui connaissent souvent mieux les besoins et le terrain. Néanmoins, pour s'assurer que le travailleur humanitaire se met au-dessus de toute considération personnelle, de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique, les organisations humanitaires recherchent pour certaines fonctions clés du personnel international.
Alors qu'est-ce qui empêche les humanitaires parfois de venir rapidement en aide aux personnes en danger lors des crises ?
Plusieurs situations de terrain retardent souvent l'action des humanitaires. Parfois, c'est le manque d'argent et le temps d'en chercher auprès des donateurs peut prendre quelques jours. Certaines personnes non habilitées veulent parfois s'ingérer dans la distribution de l'aide. Ou encore, le retard peut être dû aux conflits armés et à l'insécurité. Parfois, les humanitaires sont pris pour des cibles dans les conflits armés alors qu'ils sont là pour assister les victimes.
Alors, comment les humanitaires collaborent-ils avec les autorités locales des zones où ils interviennent ?
Les humanitaires ont l'obligation d'aider les plus vulnérables de manière indépendante, libre des considérations politiques, économiques ou militaires. Cependant, leurs activités sont menées en collaboration avec l'État et les organisations non gouvernementales pour faciliter leur action sur le terrain.
Merci Honoré Missinga.
Merci à vous.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Kabamba Mwanza Doudou Serge, père de famille, marié. J'ai fait mes études maternelles primaires et secondaires ici à Kinshasa, à l'école paroissiale Mukasa d'abord et ensuite à l'école paroissiale Bossalissani dans la commune d'Engalema ici à Kinshasa. Je suis licencié en fiscalité, gradué en comptabilité de l'Institut supérieur des commerces, toujours à Kinshasa. Je suis ici à la MONUSCO depuis 2006, alors MONUC, et je suis ici comme assistant aux finances. À mon recrutement en 2006 jusqu'en 2008, je m'occupais du traitement des FTN claims. Après ces brefs séjours au niveau du traitement des FTN claims, j'ai été convié à occuper les postes toujours d'assistant aux finances, mais cette fois-là à la trésorerie, où je suis jusqu'à aujourd'hui. Et chaque matin, quand je viens à mon travail, c'est déjà à partir de 8h30 que je suis au bureau. Bien que mon bureau est ouvert à partir de 9h aux visiteurs, je me prépare pour préparer le paiement à la fois des staff MONUSCO, mais aussi des particuliers qui traitent avec la MONUSCO. Et je fais la liaison entre la MONUSCO et les banques. Les banques ici en national comme les banques au niveau étranger. Et donc, c'est ce que je fais chaque matin. Mais avant de venir à la MONUSCO, j'ai été comptable fiscal au groupe Mino Congo. Et je m'occupais particulièrement de la société Transgazelle, qui est une société de transport routier, qui fait Kinshasa-Matadi. Et avant cela aussi, j'ai travaillé par deux fois dans des cabinets ministériels. Et donc, j'ai travaillé avec Feu, Son Excellence, Monsieur Eleko, au ministère de l'Énergie. Et ensuite, j'ai travaillé avec le professeur Baniakou, au vice-ministère de la distribution et commercialisation des produits pétroliers. J'aime bien les légumes, j'aime bien le poisson avec le foufou. Je suis amateur du football, supporter de l'AS Vita Club et de Barcelone. J'ai pratiqué les judos et les karatés. J'aime les gospel music, les loisirs, j'aime être au stade et j'aime bien me divertir avec la lecture. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc comme ici sur place il n'y a pas de cinéma, je ne sais pas trop aller au cinéma. Sinon en tant que financier de formation et de profession, je rêve de devenir financièrement indépendant en créant un système qui pourra me faire gagner des revenus passifs de sorte que je m'occupe des nécessités. Voilà un peu mon projet. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Quel Quelques rendez-vous à noter dans vos calepins. Le 9 octobre, c'est la journée mondiale de la poste. Le 10 octobre, journée mondiale de la santé. Et puis le 12 octobre, c'est la journée mondiale pour la fille. Et voilà, c'est de la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Sylvain Baoguere, Honoré Missenga Talala était au reportage et à la réalisation, Jean-Pierre Elali Coco au reportage également et à la coordination sous la supervision de Martin Sebujangwe. À bientôt sur Radio Capi. Ciao.